Bonjour à tous et bienvenue au culte de l'Épi ce matin. Nous sommes tellement tristes de ne pas pouvoir vous accueillir. Nous avions prévu pour ce dimanche un culte avec des baptêmes et malheureusement, en raison des risques sanitaires, nous avons préféré décaler cette date. C'est une déception pour tous, mais encore un peu de patience et la joie ne sera que d'autant plus grande pour ce temps de rencontre, de témoignages et de joie. Il y a 5 siècles, le jeune réformateur Martin Luther écrivait un cantique qui est devenu très célèbre, « Dieu est une forteresse pour nous ». C'est un rempart que notre Dieu, plus connu sous cet angle, dans un contexte qui était à l'époque aussi difficile que le nôtre. Une Europe terrorisée par la mort sous toutes ses formes, maladies, disettes, guerres, conflits, révoltes. Et ce qui l'a inspiré, notamment, c'est le psaume 46. C'est avec ce psaume que j'aimerais introduire ce temps de culte pour nous dire que dans les temps de détresse, Dieu n'est pas lointain, bien au contraire. Dieu est pour nous un refuge, dit le psalmiste, un appui, un secours, toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Que ce temps de culte soit un temps d'édification, un temps d'encouragement pour chacun d'entre vous. Derrière vos écrans, on vous imagine dans votre salon, peut-être ailleurs. En tout cas, soyez encouragés au travers de ce qui sera partagé dans le cadre de ce culte. Voulez-vous que nous prions ensemble et que nous demandions à Dieu de fortifier notre foi à tous. Seigneur notre Dieu, nous nous souvenons ce matin que tu es une tour forte, une forteresse, un appui solide pour chacun d'entre nous. Merci pour ce culte. Merci pour la prière, merci pour le chant, pour la louange. Que tout cela vienne fortifier notre foi et participe à notre construction, notre solidité intérieure. Merci de bénir tout particulièrement tous les amis qui sont à l'écoute, en direct ou en différé. Que ce culte les bénisse, que toi, Seigneur, tu les bénisses, tu les encourages. Et que tu sois pour chacun d'entre nous une forteresse et un appui solide pour notre foi. Amen.
Seigneur, tu es le bienvenu parmi nous. Nous glorifions ton Saint-Nom. Gloire à toi. Ouh. Oh, 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 oh. Avec des cantiques, chantons ses louanges. À ses pieds, déposons nos fardeaux. Il nous donne sa paix. Tous en cœur, approchons-nous de son trône avec repentance. Considérons l'amour de Dieu. Et glorieux, nous sommes venus pour te louer, rassemblez-nous, te célébrons. Seigneur, viens siéger dans nos louanges, nous t'invitons. Oh, tu es le bienvenu, tu es le bienvenu, tu es le parmi nous. entendre ta voix souveraine. Que ta puissance et ta sainteté resplendissent dans ce lieu. Nous sommes venus pour te louer, rassemblez-nous, te célébrons. Seigneur, viens siéger dans nos louanges, nous t'invitons. Tu es le bienvenu, tu es le bienvenu, tu es le bienvenu parmi nous. Son nom, tu ressuscites. Toi le Saint, le Seigneur de nos âmes, viens prendre toute la place. Nous chantons à la gloire de ton nom, tu ressuscites. Toi le Saint, le Seigneur de nos âmes, viens prendre toute la place. Nous sommes venus pour te louer, rassemblez-nous, te célébrons. Seigneur, viens siéger dans nos louanges, nous t'invitons. Tu es le bienvenu, tu es le bienvenu.
Seigneur, tu es magnifique, ô Père, et nous voulons déclarer dans notre vie que tu es capable, ô Seigneur.
Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Tu es capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Accomplira toutes ses promesses envers toi. Oui, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera.
Oh mon ami, Dieu fera quelque chose ce matin pour toi,
il fera.
Rends grâce à Dieu,
oh, hey. Il fera, oui, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi, oui, garde,
garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera oh, 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 il fera oh, 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 il fera oh, 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 il fera oh, 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 il fera oh, 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 il fera oh, 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 il fera, il fera, il fera, il fera. Oui, Dieu fera, il fera, il fera, il fera, il fera. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Garde, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père. Nous voulons t'adorer, Seigneur, parce que tu es magnifique. Tu es excellent, Seigneur. Et nous le déclarons une fois de plus ce matin. J'étais brisé, vide sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs. Tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit. Yeah. Tu es merveilleux, ô roi des rois. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta grâce dans nos vies, Jésus. Nous t'adorons pour toutes choses. Oh, Jésus, 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 Jésus. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Grâce infinie. Seigneur, je t'adore, Jésus. Tu es là chaque saison, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Chaque saison, à tout moment, tu es là. Pas tant de tristesse, tu es ma force, tu es là. Ma paix dans l'orage, ta voix je poursuivrai. Et dans ma faiblesse, je sais que tu tiendras ma main. Je garderai l'espoir. Je saisirai ta grâce, je m'abandonne à toi, je veux suivre toutes tes voies. Tu es l'ancre de mon âme, ô paix, tu ne changes pas, je t'adore, paix d'amour. Tu es l'ancre de mon âme, Seigneur.
garderai l'espoir, je saisirai ta grâce, je m'abandonne à toi, je veux suivre toutes tes voies. Tu es l'encre de mon âme, ô Père, tu ne changes pas. Je t'adore, Père d'amour. Je garderai l'espoir, je saisirai ta grâce, je m'abandonne à toi, je veux suivre toutes tes voies. Tu es l'ancre de mon âme, ô Père, tu ne changes pas. Je t'adore, Père d'amour.
Je suis émerveillé par ta présence, Seigneur. Je veux une fois de plus t'élever, te magnifier, glorifier ton Seigneur. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Gloire à toi, Père.
Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé, émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi. Personne comme toi, Jésus, personne n'est comme toi. sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom.
Les amis, quel moment précieux dans la présence de Dieu. Que vous soyez derrière les écrans, nous ici avec quelques-uns, les musiciens, techniciens, pour vous permettre de vivre ce culte. Nous croyons que Dieu n'est pas le Dieu de la distanciation, mais qu'il est proche de chacun d'entre nous. Il nous aime, il nous veut du bien. Et ce matin, notre prière, c'est que ces chants nous élèvent dans sa présence et nous encouragent. Qui n'a pas besoin d'être encouragé dans ces temps particuliers? Nous avons tous besoin d'être nourris dans notre foi et encouragés dans notre marche chrétienne. Merci à Eric, à toute l'équipe pour ces chants. Merci aussi aux techniciens qui sont derrière leurs appareils et qui nous font vivre ces moments. C'est une bénédiction, c'est un grand privilège d'avoir ces outils aujourd'hui à disposition pour pouvoir vous permettre de vivre ces moments tellement précieux. Quelques informations à vous communiquer avant de laisser la place pour le message. D'abord, nous sommes à votre disposition, toute l'équipe pastorale. Vous pouvez nous contacter au numéro habituel sur le portable de l'église qui s'affiche. Donc n'hésitez pas, besoin d'un conseil, besoin d'information, besoin de renseignements, ce numéro est à votre disposition avec toute l'équipe pastorale. Vous avez besoin de réécouter peut-être les messages précédents, peut-être aussi de renseignements, peut-être souhaitez-vous continuer à nous soutenir. Tout cela est possible. Allez simplement sur le site de l'EPI qui s'affiche aussi et que vous connaissez aussi maintenant. Et vous pouvez cliquer sur la rubrique qui vous intéresse et vous laisser guider dans votre recherche. Alors écoutez bien, à partir de ce jeudi 5 novembre de 19h à 20h15, nous programmons et ce tous les jeudis qui vont suivre, nous programmons une réunion de prière. Croyons que dans ces temps si particuliers, c'est important de rester connecté à Dieu et de rester connecté les uns aux autres. Donc nous vous proposons sur la plateforme Zoom cette réunion de prière, mais aussi réunion d'échange, de partage. On pourra prendre des nouvelles, on pourra s'informer de la santé des uns des autres, mais aussi s'informer réciproquement de l'évolution de la situation et nous prendrons le temps de prier ensemble. Donc jeudi, à partir de ce jeudi 5 novembre, 19h jusqu'à 20h15, et ce pour tous les jeudis qui vont suivre. Vous allez sur le site de l'EPI et vous cliquez réunion de prière et vous tombez sur l'information et vous pourrez vous connecter. Également, le sommet mondial du leadership. Vous savez que chaque année, nous organisons ici à Strasbourg, mais depuis cette année aussi sur Valence, l'équipe parisienne est aussi dans les starting blocks pour le sommet mondial du leadership. C'est une conférence qui s'adresse à tous les responsables de services, d'activités, des pasteurs bien sûr, mais aussi des anciens, des membres du CA, tous ceux qui d'une manière ou d'une autre contribuent à faire évoluer des équipes et à coordonner, à organiser des activités, des services. Ça peut être aussi dans le milieu associatif. Peu importe, sentez-vous tous concernés, le sommet mondial du leadership est pour vous, donc c'est samedi 7 novembre. Pour vous inscrire, très simple, sommetmondialduleadership.fr, donc sommetmondialduleadership en un seul mot, .fr, vous avez toutes les infos et vous pouvez vous inscrire sans problème. 25 euros cette conférence, samedi 7 novembre de 13h à 18h30. Franchement, ça vaut la peine. Je vous encourage, inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. À présent, nous voulons laisser la parole au message. Et ce qui nourrit notre foi, c'est le message de la parole de Dieu. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ma collègue Anne Burle qui va prendre la parole maintenant. Et nous poursuivons dans notre série les 7 signes pour fortifier, encourager, nourrir, stimuler notre foi. Anne, c'est à toi.
Bonjour à tous et à toutes. Alors moi j'ai envie de dire, si vous avez bien écouté les chants, j'aurais pas besoin de parler en fait. Il y avait tellement d'ingrédients, j'ai envie de dire, des chants qui vont être encore là, dit ce matin dans le message. Et c'est juste une bénédiction. Les chants, ça prépare notre cœur, ça prépare ouais, vraiment notre cœur à se dire, bah, Seigneur, je t'ouvre mon cœur, j'ouvre mes oreilles. Et j'espère que vous êtes bien installés, parce qu'on va vivre une sacrée aventure ce matin. Alors, comme disait Michel, on continue cette série des 7 signes dans Jean. Et on va tout de suite lire dans Jean, chapitre 6, le verset 16 à 21. Le soir venu, ses disciples descendirent au bord du lac. Ils montèrent dans une barque pour traverser le lac et se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Le vent soufflait avec violence et le lac était agité. Après avoir ramé environ 5 km, ils virent Jésus qui marchait sur l'eau et s'approchait de la barque et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur !» Ils voulurent alors le prendre dans la barque et aussitôt, celle-ci aborda à l'endroit où ils allaient. Ce récit se trouve juste après la multiplication des pains. Alors, il n'y a pas beaucoup de versets dans ce récit, mais il y a tellement de choses à apprendre et il y aura tellement d'enseignements encore. Alors, bien évidemment, à chaque fois qu'on lit un passage dans la Bible ou comme quand on lit toutes les histoires, on connaît le début et on connaît la fin. Et parfois, ça enlève un peu, j'ai envie de dire, les émotions qui se passent pendant cette histoire, pendant cette traversée qu'ils ont vécu les disciples, et ça enlève la sensation de ce qui s'est passé. Mais si vous le voulez bien, ce matin, comme je vous ai dit, on va vivre une sacrée aventure, si vous le voulez bien. On va essayer un peu de se mettre dans la peau des disciples ce matin. Et si vous êtes prêts, j'ai envie de dire, enfiler tout l'équipement pour aller dans une barque, on embarque ce matin avec les disciples. Les disciples viennent de vivre, comme je vous l'ai dit, la multiplication des pains. Juste un miracle extraordinaire. Jésus avait 5 pains de poisson et il les a multipliés pour nourrir une foule de plus de 5000 personnes. Je ne sais pas si vous sentez là, il y a l'effervescence, cette joie. On est content, tout le monde a pu manger à sa faim et il en reste encore. Et quand Jésus accomplit un miracle dans notre vie, ben, je ne sais pas vous, mais on est rempli de joie. On a envie de sauter, de danser, d'exprimer ce que Dieu a fait dans notre vie. On ne reste pas là comme ça. Ouais, Jésus a fait quelque chose. Non, on a envie même de le crier sur les toits. Et le verset 16 nous dit, « Le soir venu, ses disciples descendirent au bord du lac et ils montèrent dans la barque. » Donc on voit que le soir arrive, le soleil se couche, et que les disciples embarquent. Dans l'évangile de Matthieu et de Marc, il est écrit que c'est Jésus qui obligea les disciples à partir. Et je pense que là, les disciples avaient envie de dire, « Mais Seigneur, nous on veut rester avec toi. Tu viens de multiplier là, des pains et des poissons, on a envie. On veut continuer dans cette joie, dans cette paix, dans cette abondance. On veut en profiter, on veut savourer encore ce que tu viens de faire. » Mais Jésus obligea les disciples de partir. Parce que Jésus, ce qu'il voyait, c'est que la foule, elle allait l'enlever pour le faire roi. Et que, bien sûr, ce n'était pas dans les plans de Dieu. Alors Jésus oblige les disciples de partir. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais j'imagine, allez, allez, allez-y, quand c'est le moment, il faut y aller. Il les oblige à monter et à le précéder. Comme si Jésus, quelque part, donnait un rendez-vous aux disciples. Allez-y, allez devant moi, j'arrive plus tard. Mais à ce moment-là, je ne pense pas que les disciples comprenaient. Et cela me rappelle quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Tout allait bien. J'avais trouvé un travail, ça faisait quelques années où j'y étais, et c'était vraiment Dieu qui m'avait ouvert la porte. J'avais mon appartement, la sécurité de l'emploi, j'avais de l'argent qui rentrait tous les mois, la famille à mes côtés qui était pas loin. Tout était bien. Et puis, un jour, Dieu me dit, pars et va à l'église, va à l'école biblique. Et là, je me dis, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait aller à l'école biblique? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les démarches, machin, tout ça? Donc, je me renseigne. Et en fait, je réalise que aller à l'école biblique, ben, c'est quitter mon confort, c'est quitter mon appartement, c'est quitter mon boulot et d'avoir un salaire tous les mois pour me retrouver dans un internat, peut-être pas toute seule dans la chambre. Et pour me retrouver ben, sans argent qui rentre tous les mois et dépendre des autres. Et là, en me voyant, vous allez dire « Ah, mais tu as dit oui !» Eh bien non. Ma première réaction, c'est que je dis « Non, je ne suis pas d'accord là. Je ne suis pas d'accord. » Un peu comme les disciples, quand il y a la multiplication, ils disent « Ah, mais c'est trop bien là, ce moment, ce que je vis là, c'est trop bon. Je vais encore en profiter, je vais encore en savourer. » Et puis, Dieu, il sait nous parler. Et un jour, dans une des lectures personnelles, pareil, c'est l'histoire du jeune homme riche qui se trouve dans Marc 10, où Jésus lui dit « Mais va, vends tous tes biens et suis-moi. » Et le jeune homme riche partit tout triste parce qu'il n'est pas arrivé à vendre ses biens. Et cette phrase, « Le jeune homme riche partit tout triste », elle a percuté mon cœur. Et là, je me suis dit « Il est impossible. Il n'est pas possible que je parte tout triste. » Et peut-être que ce matin, tu te trouves dans cette situation où tu t'accroches à la bénédiction de Dieu. Et tu n'as pas envie de la quitter. Tu te dis, c'est tellement bon. Mais Dieu, quelque part, te demande de laisser. Et de continuer le chemin. D'aller de l'autre côté. De partir. Et ce matin, je te laisse le choix. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Donc là, on voit que Jésus leur demande de partir. De quitter le lieu où ils se trouvent pour aller de l'autre bord. Et Jésus fait partir les disciples. Et je pense que c'est la première fois depuis le début du ministère de Jésus, que les disciples partent sans Jésus. Et on va regarder de plus près le lac de la Galilée. Alors je pense que vous allez avoir une image qui s'affiche. Le lac de la Galilée, il est au nord-est de Jérusalem. Il se situe à environ 250 mètres dessous du niveau de la mer. Et quand l'air frais descend rapidement des montagnes du nord, quand l'air frais descend rapidement aussi des plateaux au sud et arrive sur le lac et qu'il chasse tout l'air chaud et humide, ça déclenche de soudaines tempêtes accompagnées de très vagues, redoutables, même pour les pêcheurs qui connaissent les lieux. Et les disciples partent à la tombée de la nuit, traverser le lac de Bethsaïda à Génézareth. Sur les recommandations de Jésus, le verset 18 nous dit, il est écrit, le vent soufflait avec violence et le lac était agité. La galère arrive. Ils se retrouvent en plein milieu du lac, dans une tempête. Et d'après ce que ça a été décrit, c'est pas des petits vents, non, c'est des vagues violentes. Et là, je sais pas, j'imagine, je sais pas comment les disciples ont réagi. Allez, une vague. Allez, deux vagues. Allez, on pagaie. Non, on pagaie plus, on n'a plus de force. Et puis je me dis, peut-être qu'ils se seraient dit, mais on aurait mieux fait de rester au bord du lac. On aurait mieux fait de ne pas partir. Peut-être qu'ils ont pensé aussi, mais on n'était pas bien là. Pourquoi on est parti? Pourquoi sommes-nous partis? Ils se retrouvent là, dans la tempête. Et là encore, je me rappelle une tempête traversée. J'étais animatrice en colonie de vacances, et j'avais un groupe de filles qui avaient 7-8 ans. Et donc, on était partis pour une nuit à la Belle Étoile, tout le monde dans une grande prairie, tout le grand groupe des moyens. C'était super, ils étaient super contents, super excités pour les endormir, c'était pas de la tarte. Et puis bon, ils sont tous endormis, et puis le soleil se lève, le matin arrive, et là, avant même que les petits se réveillent, mon téléphone sonne. Ma maman m'appelle et elle me dit, voilà, Pépé est décédé. Et là, bam, une tempête. C'était l'année de mes 18 ans et cette année-là, c'était tempête sur tempête sur tempête sur tempête. Et là, c'était la dernière vague qui m'a complètement ébranlée. Alors, je décide de partir, de m'écarter, de mettre à l'écart, bien sûr, pour pleurer, mais parce qu'en plus, je devais préparer le temps spirituel qu'on allait passer avec tout le groupe des moyens. Et là, je me rappelle, mais complètement déboussolée. Je ne savais plus où j'étais, je ne savais plus ce que je faisais. Et quand le temps du culte arrive avec les enfants, je commence à leur raconter l'histoire. Et c'est l'histoire que je vous lis ce matin, celle de Jean. Et où les disciples étaient dans cette tempête. Et vous savez, pour les enfants, on a besoin de visualiser, de mettre des visuels. Alors j'avais dessiné les vagues et tout ça, et puis la barque au milieu, j'avais dessiné les vagues. J'avais donné un papier à chaque enfant, je leur avais dit, voilà, sur les vagues, sur cette tempête, mettez un nom. Qu'est-ce que c'est votre tempête aujourd'hui? Quel nom elle a? Et je n'avais pas réalisé sur le coup que ce que je leur partageais, c'était pour moi aussi. Qui là, à ce moment même, ce matin même, passait par une tempête, par une grosse tempête. Et ce matin-là encore, comme j'ai fait pour les enfants, je veux te dire, mais quelle est ta tempête ce matin? Quel nom vas-tu mettre sur les vagues de la tempête qui est en train de, tu prends une vague, une deuxième vague? Est-ce que c'est la tempête de la recherche de l'emploi où tu reçois encore et encore des refus? Est-ce que c'est la santé? Il y avait un mieux et tu te dis, ouais, super, ça va bien. Et puis là, wow, encore une rafale. Et ça rechute. Est-ce que c'est ta situation financière où tu as l'impression de ne plus voir le ciel bleu? Tu as l'impression que il y a rien, ça ne va pas se dégager. Ou est-ce que parfois ça peut être la tempête du silence? La tempête du silence où ouais, tu voudrais te marier et pff, rien ne se passe. Et là, les disciples sont partis de l'autre bord. Ils ont quitté l'autre bord parce que c'est Jésus qui leur avait demandé de les devancer. Et là, peut-être ce qu'ils ont dit, mais Seigneur, attends, mais punaise, c'est toi qui nous a dit, qui nous a obligés de partir. Peut-être ce matin, tu te dis, mais Seigneur, je suis parti, je t'ai écouté, j'ai fait ce que tu m'as dit, je suis parti. Le verset 15 de ce même chapitre, que je ne vous ai pas lu, il dit que Jésus s'était mis à l'écart sur la montagne. Et on avait dit, Seigneur, c'est pas le moment de se mettre à l'écart là, on a besoin de toi là dans la tempête. Et dans l'évangile de Matthieu et de Marc, ils précisent que c'était pour prier. Et là, je ne vais pas insister sur ce point où est Jésus? Où se trouve Jésus quand ça ne va pas? Parce que ça a été déjà prêché la semaine dernière et les autres semaines. Mais tout simplement rappeler que quand Jésus, après avoir été crucifié sur le bois de la croix pour nos péchés, quand Jésus a été enterré, mis au tombeau, et que 3 jours après, il est ressuscité, il est allé à la droite du Père. Il est allé auprès de Dieu. Romains 8, 34, il dit, Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ou encore, Matthieu 28, 20, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas parce que nous avons l'impression. Ce n'est pas parce que tu as l'impression que Jésus n'est pas avec toi ou n'est pas avec nous qu'il ignore tout ce que nous traversons et qu'il n'est pas présent dans notre tempête. Jésus savait qu'il allait les rejoindre. Il le savait puisque c'est lui qui les a envoyés. Mais peut-être pas les disciples ou peut-être qu'il ne l'avait pas compris à ce moment-là. Et toi ce matin, ma question est, crois-tu que Jésus va venir dans ta tempête? Crois-tu qu'il te donne comme un rendez-vous au milieu de cette tempête? Un temps où peut-être, rapproche-toi de Dieu, sois à son écoute. Jésus va les rejoindre dans leur tempête. Jésus vient et Jésus vient te rejoindre dans ta tempête. Le verset 19 est écrit « Après avoir ramé environ 5 kilomètres ». Moi, des fois, je fais 5 kilomètres de vélo, ça fait beaucoup, mais alors ramer. Ils virent Jésus qui marchait sur l'eau et s'approchait de la barque et ils eurent peur. Ils ont dû se prendre je ne sais pas combien de vagues. Et des fois je me dis, mais j'aurais aimé vivre, voir comment ils ont vécu cette situation. Ils ont dû dépenser beaucoup d'énergie. Parce que déjà en ramant sur un lac calme, ça fait les bras. Mais là, avec la tempête en plus, et le texte ne nous dit pas ce qu'ils pensaient, ce que les disciples pensaient, ce qu'ils se disaient l'un à l'autre pendant cette tempête. Est-ce qu'ils se sont accrochés au fait que Jésus leur avait dit « Allez de l'autre bord » étant donné que cette parole, elle venait de Jésus. Il ne risquait rien en même temps. On est parti parce que Jésus nous l'a demandé. Et quand Jésus a dit aux disciples d'aller de l'autre bord, il n'a pas dit que le lac allait être calme. Vous savez, des fois je me dis, la vie chrétienne c'est un peu ça en fait. On signe un contrat, mais on ne sait pas forcément tout ce qui va se passer dans notre vie. Mais sachez que dans cette barque, on n'est pas seul. Et pendant que je préparais ce message, il y avait un chant qui m'est venu en tête, « Si la mer se déchaîne ». Et à un moment, le refrain, il dit, « Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, « Allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. » Toujours est-il que les disciples virent Jésus marcher sur l'eau, et la première des réactions, c'est qu'ils ont eu peur. Ils n'avaient pas reconnu que c'était Jésus. Ils ne pensaient peut-être pas que Jésus était capable de marcher sur l'eau. Pourtant, ils venaient de le voir à la multiplication des pains, quelques heures auparavant. Ou alors, ils avaient peut-être déjà oublié ce que Jésus avait fait quelques heures auparavant. Et puis, c'est vrai, dans le fond de la tempête, dans le cœur de la tempête, parfois, on voit ce qui se passe autour de nous, mais on oublie ce qui s'est passé auparavant. C'est vrai que parfois, quand on a des difficultés, on est, comme on dit, la tête dans le guidon et on oublie de, hop, lever les yeux. Ou de se rappeler ce qui s'est passé. Et quand une tempête arrive, est-ce qu'il nous arrive d'avoir peur et ne pas s'attendre à Dieu? Ou d'oublier, comme je disais tout à l'heure, toutes les fois où Dieu a fait des miracles dans notre vie? Je crois que c'est un cantique qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras, en adorant combien le nombre en est grand. » Combien le nombre en est grand. Alors les disciples ont eu peur. Ils ont eu peur, on en parle de la peur. Dans l'évangile de Marc, il est écrit que les disciples poussèrent des cris quand ils ont vu Jésus. La peur les a poussés à hurler, à crier. Et là, j'ai envie de dire, dommage qu'on ne peut pas avoir d'interaction, mais quand tu as peur, comment tu réagis? Est-ce que tu fais comme les disciples, tu cries? Tu peux partir en courant? Est-ce que tu t'énerves? Ou est-ce que tu te venges? Quelle est ta réaction face à la peur? Ou tu peux te cacher aussi au fin fond de la cave. Et cette semaine, il y a une jeune qui nous a partagé sur le groupe de jeunesse, WhatsApp. Et je vais vous lire ce qu'elle nous a partagé. Il est marqué « Alors que Saül était encore roi d'Israël, Dieu a choisi David pour monter sur le trône. Et Saül voyait la réussite écrasante de David dans tout ce qu'il entreprenait. Et savait qu'il prendrait sa place. Saül s'est senti menacé dans ce qu'il avait de plus cher, c'est-à-dire sa royauté. Il était tellement attaché à son bonheur qu'il a passé le reste de sa vie à poursuivre David. Il a laissé son cœur être envahi par la peur et la jalousie. 1 Samuel 20, 31, il est écrit, il dira en s'adressant à son fils Jonathan, « Aussi longtemps que le fils d'Isaïe, donc David, sera en vie sur la terre, il n'y aura pas de sécurité, ni pour toi, ni pour ta royauté. Maintenant, envoie le chercher, et qu'on me l'amène, car il mérite la mort. » Par peur, Saül poursuivit David pour le tuer. Par peur, voilà sa réaction. Et la peur peut nous pousser à faire vraiment n'importe quoi, ou ce qu'il ne faut pas. La peur de lâcher la bénédiction que Dieu nous donne, nous a donné, et passer à côté du plan de Dieu. Et entre nous, j'ai envie de dire, en ce moment, il y a de quoi avoir peur, avec tout ce qu'on entend, tout ce qui se passe. La peur qui nous pousse aussi à ne pas reconnaître Dieu dans notre vie. La peur qui nous fait baisser notre focus, au lieu de l'avoir sur Dieu, on l'a sur nous-mêmes. Au lieu de lever les yeux vers le Créateur, le Tout-Puissant. Et un jour, je discutais avec ma sœur et on parlait justement de peur, de sentiments de peur, l'incertitude, quand on n'a pas un travail qu'on cherche et tout ça. Et puis, je ne sais pas comment c'est venu dans la discussion. À un moment, on dit, mais ouais, ça m'est arrivé que, en fait, si j'avais pas peur, je trouvais ça pas normal. Comme si le fait d'avoir peur, ça va loin quand même des fois, mais comme si le fait d'avoir peur, ça va nous procurer quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est que du coup, je m'accroche à la peur parce que j'en suis sûre que si j'ai peur, bah, du coup, ça va m'assurer quelque chose. Mais bien au contraire, j'ai envie de dire. Matthieu 6, 27 dit, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie ?» On peut penser que les disciples, même après qu'ils aient vu la multiplication des pains et des poissons, ne réalisaient pas la toute-puissance de Jésus. La souveraineté de Jésus sur les lois de la nature, l'autorité sur les éléments naturels. Ils ne mesurent pas la toute-puissance de Jésus. Est-ce que par un manque de foi, ce manque de foi qui produit une dureté de cœur et diminue la perception spirituelle, et ce matin, est-ce que ton cœur ne s'est pas endurci au point que tu ne crois plus que Dieu peut intervenir dans ta tempête? Est-ce que tu crois ce matin que Dieu est tout puissant? Est-ce que tu crois que oui, il peut pourvoir à tes besoins, mais il peut être là dans ta tempête et il peut l'apaiser ta tempête? Alors je ne dis pas de ne plus avoir peur. Non. C'est humain d'avoir peur, mais ne laissons pas la peur envahir notre cœur. Ne laisse pas la peur envahir ton cœur. Au point que on n'arrive plus à croire que Jésus est tout puissant. Ne regardons pas aux circonstances et ne regarde pas aux circonstances, mais regarde à Jésus. Lis la Bible et tu verras ce que Jésus a accompli et ce qu'il peut accomplir aujourd'hui en toi. Continue dans le passage au verset 20 à 21. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulurent alors le prendre dans la barque et aussitôt celle-ci aborda à l'endroit où ils allaient. Le fait que Jésus parle, cela les a rassurés. Le fait qu'ils entendent une voix connue et qu'ils reconnaissent celle de Jésus. Et peut-être qu'à ce moment où ils ont entendu la voix de Jésus, ils se sont dit, mais oui, c'est Jésus. Jésus qui a fait la multiplication des pains. Alors j'en suis sûre qu'il va pouvoir nous aider. Cela les a apaisés. Et l'image qui peut être la plus parlante, c'est quand c'est un enfant avec ses parents. Et quand j'étais petite, et je ne sais pas ce matin si derrière l'écran il y a des enfants, mais quand j'étais petite, j'avais peur du noir et j'avais peur de la mort. Et souvent, la nuit, il m'arrivait de faire des cauchemars. Qu'est-ce que je faisais? Ma chambre, elle était là, et celle de mes parents était en face. J'allais direct dans la chambre de mes parents. Je courais, je me glissais dans le lit entre tous les deux. Et là, le fait de sentir leur respiration, de les sentir à côté de moi, je me sentais en sécurité. Et là, les disciples se sont sentis en sécurité parce qu'ils avaient leur maître avec eux, auprès d'eux. Quand on entend la voix de Dieu, que ce soit par un message, que ce soit parfois par un chant, par une lecture qu'on a le matin, on peut avoir une réponse à nos questions et parfois même une voix au fond de nous. Ça nous rassure, ça dissipe la peur et ça laisse la place à la paix. Quand Jésus dit « c'est moi », en grec c'est « ego eimi », « ego eimi », pardon, ce qui veut dire « je suis ». Ce qui revient à dire que Jésus est celui qui était, qui est et qui sera. Il est tout puissant, il est l'égal de Dieu le Père. Et c'est la même traduction que l'on trouve dans Exode 3 au verset 14 où Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis ». Jésus nous apporte la sécurité. Jésus a apporté la sécurité dans la barque des disciples. Avec Jésus dans leur barque, ils étaient sûrs, d'arriver à bon port. Il n'y avait aucune raison de crainte. Jésus était là. Aucune raison d'avoir peur. Il y a ce chant au fond de moi qui dit avec Jésus dans mon bateau, je peux rire de la tempête, rire de la tempête. C'est un chant qu'on entonnait quand j'étais toute petite. Et oui, avec Jésus dans mon bateau, je peux rire de la tempête en route vers les cieux. Celui qui était présent dès le commencement, qui avait participé à la création du monde et donc du lac de Galilée, là où se sont trouvés les disciples, pouvait apaiser la tempête qui faisait rage et amener ses disciples apeurés, sains et saufs, de l'autre bord. Celui qui était présent avant même que tu vois le jour, peut apaiser la tempête de ta vie et peut t'amener à bon port. Veux-tu connaître Jésus ? Veux-tu qu'il t'apporte cette paix dont ta vie a besoin, cette sécurité, cette sérénité ? Je veux t'encourager ce matin, là où tu es, ou même peut-être après le culte, à t'adresser simplement, que tu connaisses Jésus ou que tu ne le connaisses pas, à t'adresser, à lui parler, à t'exprimer, à lui dire « voilà ce que je vis, voilà ma tempête », à citer le nom de la tempête, à lui confier ta tempête, à lui confier même tes peurs. N'aie pas honte d'être honnête, d'être transparent devant Dieu ce matin. Et je suis certaine qu'il va se manifester. Parce que Dieu est grand, Dieu est fort, Dieu est puissant. Mais ce matin, est-ce que tu vas croire ? Est-ce que tu vas croire qu'il peut apaiser ? Qu'il peut être là, présent dans ta tempête et venir te rassurer dans la barque ? Alors que l'équipe de louange va commencer à monter. Ce cinquième miracle, ce cinquième signe que Jean nous apporte dans son évangile, nous enseigne que les vagues qui nous ont inspiré tant de frayeurs, tes vagues qui t'ont inspiré tant de frayeurs et peut-être encore aujourd'hui, sont sous ses pieds. Qu'au-delà du fait que Jésus pourvoit à nos besoins, il nous assure la paix parfaite, même en temps de tempête. Et qu'il nous amène à bon port. Malgré les circonstances pour lesquelles nous passons, Dieu nous demande de ne pas avoir peur, car il nous rejoint dans notre barque au milieu de la tempête. Et nous traversons tous des tempêtes, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient affectives, qu'elles soient matérielles. Nous sommes parfois ballottés par une vague, une autre, comme l'ont été les disciples. Mais en confiant notre vie à Jésus, nous sommes certains d'être rampés au milieu des orages. Et dans le commentaire du disciple de toute la Bible, il est écrit quelque chose qui est, quand on voit en globalité ce signe, il est écrit « L'Église a vu dans ce miracle une image de temps présent et de la fin. Jésus sur la montagne représente le Christ dans son ministère céleste actuel, où il intercède en faveur de son peuple. Les disciples correspondent à ses serviteurs ballottés par les tempêtes et les épreuves de la vie. Et bientôt, le Seigneur va revenir vers les siens pour les arracher au danger, pour les délivrer de leurs angoisses et de leur conduite. Sain et sauf au port céleste. » Et c'est vrai que nous sommes tous dans notre barque. Et dans cette barque de la vie, j'espère vraiment que Dieu y est ce matin. Parce que je peux vous assurer que même si on traverse une tempête, même si on se prend une vague puis après une autre, le fait d'être rassuré, d'avoir Dieu dans nos vies, d'avoir accepté qu'il soit notre sauveur et notre maître, ça nous assure la paix. Dieu est tout puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit « allons de l'autre bord ». Que vraiment Dieu soit dans nos barques ce matin et que nous soyons les yeux fixés sur lui. Même en étant honnête, « Seigneur, j'ai peur, je traverse une tempête et je ne sais pas comment ça va se passer ». Mais je veux être en paix parce que tu es là. Parce que tu as dit que tu traverserais avec moi la tempête. Parce que tu dis, ta parole dit que tu m'amènes à l'autre bord. Alors que ce soit l'autre bord de la terre céleste et de l'après-tempête, ou que ce soit l'autre bord de la vie éternelle, le plus important, c'est que Dieu soit dans notre vie. Le plus important, c'est que nous ayons cette paix. C'est que nos pieds soient sur le roc, que notre ancre soit accrochée à ce roc du Dieu vivant et vrai. Seigneur, Père, bien humblement, j'ai apporté ce message, mon Dieu. Et oui, on traverse des tempêtes. On le voit dans la société actuelle, mais dans notre vie, je ne connais pas les tempêtes de toutes les personnes qui traversent, Seigneur. Mais je te prie, Seigneur, dans le nom de Jésus, que chacun puisse croire que tu es là avec nous, à nos côtés, et que tu nous apportes cette paix céleste, mon Dieu. Merci, merci de nous accompagner de l'autre bord, Seigneur. Amen.
Chaque saison, à tout moment, tu es là. Par temps de tristesse, tu es ma force, tu es là. Dans l'orage, ta voix je poursuivrai. Et dans ma faiblesse, je sais que tu tiendras ma main.
Je saisirai ta grâce, je m'arrête.
garderai l'espoir, je saisirai ta grâce, je m'abandonne à toi, je veux suivre toutes tes voies. Tu es l'encre de mon âme, ô Père, tu ne changes pas, je t'adore, Père d'amour.
Je garderai l'espoir, je saisirai ta grâce. Merci Anne pour ce message qui vient nourrir notre foi. Je peux vous assurer que toute l'équipe ici autour de moi, nous avons fait le meilleur et nous donnons le maximum pour que vous puissiez saisir la grâce de Dieu, nourrir votre foi et vivre en traversant ces temps difficiles avec Jésus. Jésus est avec nous dans la barque. Il ne nous abandonnera pas. Ses promesses sont certaines. Merci d'avoir été avec nous dans cette journée. Nous prions pour vous, nous pensons très fortement à vous et cette deuxième vague, mes amis, nous allons la traverser ensemble. Ne restez pas seuls, joignez-vous à nous. Dès jeudi soir, la réunion de prière à 9h. De 9h à 19h, pardon, 19h à 20h15, vous allez sur le site de l'EPI, vous cliquez « Réunion de prière » et vous êtes avec nous pour un moment de prière, un temps d'échange, de partage. Ne restez pas seul, joignez-vous à nous. Courage à chacun, courage à chacune, que Dieu vous bénisse.